lieu entre le 11 juin et le 19 juillet aux USA, aux États-Unis, pardon, au Mexique et au Canada. C'est la fin de cette édition. Très bonne suite des programmes à l'écoute de la Radio du Monde.
Radio G.
C'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Il ne s'était pas présenté depuis 30 jours, un mois, dans cette émission et il regrette déjà d'être revenu. Bonsoir Charles.
Salut comment tu t'appelles déjà?
Pierre.
C'est toi Marc?
Oui, c'est ça.
C'est exactement. Toi Charles.
Comment ça va Pierre?
Ça va, oui. T'as fait quoi de beau depuis tout ce temps?
Ah bah écoute, je pense qu'à peu près comme la moitié d'Angers, j'ai eu à gérer des maladies saisonnières de passage. Mais ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et j'ai hâte d'être plus fort parce que là je suis encore vraiment très très bas.
C'est très beau ce que tu dis, c'est un proverbe hongrois ça, je
crois. Exactement, on est d'accord.
Bon, l'édito impro de Charles avec toi évidemment, tout à l'heure en fin d'émission, de quoi va-t-on parler?
Ben on va parler d'une nouvelle pratique qui existe maintenant dans les compagnies d'improvisation, dans les ligues d'improvisation, on appelle ça le cercle de consentement.
D'accord, et je suis curieux de savoir ce que c'est ce cercle de consentement.
Ah, c'est un truc qui est hyper important, tu vas voir.
J'imagine, sinon tu n'en parlerais pas, surtout que l'édito impro dure au moins 10 minutes, donc j'imagine qu'il y a matière à en parler. Ce sera tout à l'heure, donc en fin d'émission. On a aussi... faut pas que je coupe mon micro, celui de Charles plutôt. Bonsoir Junior, ça va?
Hello, ça va et toi?
Alors le skate, ça se passe bien?
Franchement pas mal, j'ai plein de trucs à vous raconter encore aujourd'hui, j'ai hâte.
Nous aussi on a hâte, c'est à 18h35, c'est juste avant l'édito en pro de Charles. Première partie en fait.
C'est pour chauffer le public.
Exactement. Bonsoir Sidonie.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Topette, on va avoir des invités, on va avoir le THV. Normalement, on devrait passer un petit coup de fil à une metteuse en scène. Et puis on devrait avoir Amélie qui n'est pas encore arrivée. Donc j'espère qu'elle va arriver en cours de route. Je vais regarder mes mails, voir si elle m'a dit qu'elle venait bien quand même. Sinon, Topette, c'est parti pour la deuxième de la deuxième semaine avant la dernière semaine de l'année. Je crois que c'est ça.
Ouais.
Lâche pas, t'es le meilleur.
Trop long. On enchaîne.
Allez, d'accord. Techniquement, je suis un peu perdu. Voilà. On envoie la virgule.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
Non, c'est toujours bien que les matelots soutiennent le capitaine du bateau. Mais là, ça n'avait pas l'air d'être le cas. Allez, on fait un point sur l'actu plus sérieusement et puis on revient juste après ensemble. Et ce soir, c'est avec toi, Sidonie.
J'ai l'info. L'actualité à Angers et dans le département de Maine-et-Loire, sur Radio G.
On commence avec un dossier qui continue de faire réagir. À Bécon-les-Granites, une marche citoyenne est organisée ce samedi 13 décembre contre le projet minier porté par la société Belenos, spécialisée dans l'extraction de métaux stratégiques. C'est un collectif d'habitants soutenu par plusieurs associations environnementales régionales qui dénoncent un risque pour les nappes phréatiques et la biodiversité locale, dans un secteur déjà marqué par l'histoire de l'exploitation du granit. Avec cette marche, ils veulent montrer que la population entend peser sur les décisions alors que les phases d'études se poursuivent. Ce type de mobilisation rappelle celle en Bretagne ou dans le Massif central où des projets similaires ont suscité de vifs débats entre besoin de métaux pour la transition énergétique et préservation des territoires ruraux. Le rendez-vous est donné à 10h sur la place de la mairie. Plusieurs élus locaux devraient être présents. À Angers, l'université a lancé depuis octobre un vaste appel à ses anciens diplômés, ceux qu'on appelle les alumni. Ils sont environ 250 000 à avoir été formés dans les différentes facultés de l'UA depuis les années 60. Jusqu'au mois de février prochain, ils sont invités à remplir un questionnaire en ligne afin de partager leur parcours professionnel, mais aussi leur expérience de vie. L'objectif n'est pas de constituer une base de données, mais bien de renforcer les liens entre générations d'étudiants et d'imaginer de nouvelles formes de transmission. Conférences, tutorats, échanges de compétences. Une démarche qui s'inscrit dans une tendance nationale. De plus en plus d'universités cherchent à mobiliser leurs anciens pour améliorer l'insertion professionnelle des étudiants. Direction Saint-Saturnin-sur-Loire, où le château du Mont-Rude s'apprête à accueillir ce vendredi 12 décembre une soirée pas comme les autres. La jeune entreprise angevine Why Too Much, créée par Sandrine Samier et sa fille Stéphanie Poutou, y organise sa toute première grande rencontre destinée aux célibataires de 35 à 70 ans. Un événement pour se rencontrer autrement, loin des applications que beaucoup détestent, lassés par le manque de contact réel. Déjà 75 personnes inscrites avec un tarif à 79 euros ou 130 euros en duo. Une formule pour venir en confiance. Au programme cocktail dînatoire, soirée dansante chic, ambiance élégante et bienveillante. Un format qui s'inscrit dans le retour croissant des rencontres en vrai, une tendance observée un peu partout en France, où les soirées organisées connaissent un regain d'intérêt chez les plus de 35 ans qui arrivent de moins en moins à trouver leur père.
J'ai l'info sur Radio G.
Merci beaucoup Sidonie. Alors c'est pour retrouver ses parents, c'est ça l'événement?
Non, c'est pour dater.
Ah oui, d'accord, ouais. C'est les pairs, P-A-I-R-E. On va répondre à notre invité là qui est en train de sonner, puis on va passer un petit coup de fil aussi pour avoir Caroline Loz par téléphone, on l'espère, mais avant tout ça, on fait une pause musicale. On écoute Son of a Preach Man.
C'est bien.
Bon accent, ouais.
Oh ouais, c'est pas mal.
Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man.
Son of a Preacher Man sur le 101.5 FM de Radio G. Vous êtes à l'écoute de Topette. Avant de recevoir notre invité de la soirée, on vous rappelle le marché de Noël le 14 décembre à Montreuil-Junier. Place Robert Schumann, c'est avec MJ Entreprendre. Le Slam Poésy Club avec la Rature Poésie, c'est demain à 20h au Welsh. Et non pas au Welsh, c'est vrai qu'on pourrait confondre les deux. 19h pour les inscriptions, 20h pour simplement profiter des poètes et poétesses qui vont déclamer leurs vers sur scène. Leurs vers et leurs vers, puisque c'est au Welsh. Sésame Angers, sinon, propose un spectacle de Noël, le Jola Circus. On félicite les auditrices, c'est que des auditrices qui ont gagné leur place. Mais vous pouvez aussi réserver vos places pour les 13 et ou 14 décembre. C'est à la salle Athlétis au Pont-de-Cé. Et maintenant, on accueille nos invités de la soirée.
L'invité de Topette sur Radio G.
Alors tout d'abord, bonsoir Amélie. Qui arrive sur le fil, ça va?
Ouais, ça va.
Ouais, les places de stationnement à 18h, là, c'est pas évident. Hein.
Non, pas trop.
Bon, en tout cas, t'es bien avec nous et on est alors du THV, hein, chargé comme du THV. Tu nous as proposé d'appeler Caroline qui est en ligne avec nous. Bonsoir, Caroline.
Bonsoir.
Caroline Lose, du coup, tu es metteuse en scène de la compagnie Rêve de moi, je rêve de toi. Et la toute nouvelle création que tu fais actuellement, c'est Ursa Major. Est-ce que les informations sont bonnes, Caroline ?
Les informations sont bonnes. Moi, j'aime bien prononcer Ursa Major. C'est du latin qui veut dire la grande ours.
Eh bien, tu fais bien de me le préciser. Ursa Major, du coup.
Voilà.
Oui, voilà. Un petit peu plus au latin, tout simplement. Et tu seras au THG le 22 janvier. Alors, Amélie pourra, parce que là, actuellement, tu es un petit peu occupée, Caroline. Donc, merci déjà de prendre le temps d'être avec nous ce soir. On va te laisser ensuite vaquer à tes occupations. Et Amélie pourra nous préciser les contours pratiques de cette représentation. Mais avant tout, j'ai envie de vraiment tout découvrir, déjà de la compagnie Rêve de moi, je rêve de toi. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Caroline ?
Oui, donc c'est une compagnie de spectacles vivants qui a commencé au début par des spectacles de théâtre qui très vite est allé jouer dans des festivals aussi d'art de rue. Et on va dire, plus que de la compagnie, je vais parler de mon parcours artistique. Qui fait que du coup c'était d'abord du théâtre, j'ai rencontré le clown qui a beaucoup chamboulé mon rapport à la scène et qui m'a fait aussi du coup sortir du théâtre pour aller dans la rue, dans les cirques aussi. Et avec Ursa Major, je reviens à la boîte noire. Ça marque aussi une plongée dans l'univers du conte et des récits de répertoire. Donc voilà ce que je pourrais dire de façon très sommaire.
Et quand tu parles de rencontrer un clown, on est d'accord, c'est pas physiquement une personne que t'as rencontrée, c'est la notion de clown dans le spectacle.
C'est le clown comme discipline artistique et comme rapport à la scène et au public.
Voilà. Bon bah voilà pour la petite histoire, du coup ton histoire qui t'a amené avec cette compagnie Rêve de moi, je rêve de toi à proposer cette nouvelle création sur laquelle tu travailles actuellement, c'est ça ?
Elle vient tout juste là d'être créée. Les premières ont eu lieu. Il y a 2 semaines, à la Maison du Conte, en Ile-de-France.
Bon, et ça s'est bien passé ?
Ça s'est très bien passé, c'était super.
Alors justement, on va découvrir un petit peu Ursa Major. Alors déjà, ne serait-ce que le nom, avant de parler éventuellement de ce qu'il y a derrière, de cette mise en représentation d'un élément de ton clown, peut-être. Ursa Major, qu'est-ce que ça signifie ?
Alors Ursa Major, ça veut dire la grande ours, en latin donc. Et c'est un spectacle, en fait, que j'ai écrit, qui a été inspiré par la découverte d'un récit traditionnel qui vient de la tribu des Blackfoot en Amérique du Nord. Et le récit de base à partir duquel j'ai écrit, c'est la femme ours. Et bien sûr, le spectacle dépasse ce récit traditionnel-là, mais j'avais envie de... Ce récit, en fait, c'est un mythe de création de la grande ours, entre autres. Du coup, j'avais un petit peu envie d'induire ça dans le titre.
Alors Blackfoot, Amérique du Nord, tu peux nous localiser un peu plus précisément, géographiquement ? Grande ours, je crois que c'est le drapeau de l'Alaska qui représente la grande ours, par exemple. Peut-être que je me trompe totalement.
Ah bah alors ça, du coup, c'est super. J'apprends quelque chose de nouveau après toutes mes recherches sur les ours. Merci beaucoup.
Je suis pas sûr de l'info, hein. Il faudrait la vérifier, mais je sais qu'il y a des étoiles sur le drapeau de l'Alaska. Donc est-ce que c'est cette zone-là ?
Bah, c'est vraiment ouais, dans les terres vraiment au nord de l'Amérique, enfin des États-Unis, à la frontière du Canada.
D'accord, donc les Blackfoot. Et qu'est-ce qui se passe alors sur scène ? Tout à l'heure, tu parles bien de spectacle vivant. Qu'est-ce qui est mis en vie ? Qu'est-ce qu'on voit ? Quels sens sont mis en éveil chez les spectateurs et spectatrices avec Ursa Major ?
Alors, je suis seule en scène, mais je suis loin d'être seule dans cette création, puisque accoucher de ce spectacle, j'ai été accompagnée... par deux regards à la mise en scène et à la dramaturgie que sont Nolwenn Peter-Schmidt et Annabelle Sergent. Et après, il y a quelqu'un qui a créé les lumières, il y a quelqu'un qui a travaillé sur la création sonore, puis quelqu'un, Céliane Falk, qui a créé les lumières, Émile Vaquez qui a fait toute la création sonore qui est, je trouve, magnifique et importante, et François Neveu qui a fait la création musicale. Parce qu'il y a 2 moments de composition musicale à part entière, même si pour moi toute la création sonore c'est une forme de musique. Donc les sens qui sont sollicités, c'est il y a tous les sens, j'espère, en tout cas l'oreille, le regard, voilà. Et c'est un spectacle qui est très sensoriel parce que ça parle aussi de rapport au vivant et au corps.
Justement, c'est la question que je voulais te poser, parce que là, on, voilà, sur le plan du divertissement pur et dur, on va prendre beaucoup de plaisir, hein, avec tous les sens que tu évoques. Quel est le message derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est porté justement par toi sur scène à ce moment-là?
Alors, oui, j'espère. Le message, le récit traditionnel, pour la faire très rapidement sans rien spoiler, c'est une histoire d'amour interdit, de secret, de trahison, de métamorphose. Et ça me plaisait beaucoup. C'est aussi un univers où le magnifique peut côtoyer l'horreur. J'aime beaucoup cette, un peu comme dans les univers de Miyazaki, il y a, c'est des univers pas du tout édulcorés. Il y a, c'est à la fois sublime et à la fois violent, parfois, ouais, c'est, ça peut être sombre et lumineux. Donc, il y a ça qui me plaisait énormément. C'est un imaginaire un imaginaire dans lequel le monde humain est très poreux avec le monde animal et la nature en général. Et il y a des personnages de femmes que je trouve très intéressants parce que très complexes. Après moi, dans mon écriture, ce projet, je me suis rendu compte que déjà pour faire un peu la genèse de ce projet, c'est un projet qui est né à une époque très particulière. Dans le sens où je venais de subir un accident, j'étais en fauteuil roulant et je n'avais plus de jambes et je savais pas si j'allais remarcher. Et je suis quelqu'un de très physique. Du coup, j'ai écrit comme j'aurais couru, fait des acrobaties. J'ai écrit pour répondre aussi à un besoin du corps. Et pour moi, c'est un spectacle qui parle aussi de ça, de quel désir, quelle vitalité a besoin de s'exprimer. Voilà, du coup il y a ce rapport là à l'organique, à un corps confronté aussi à la nature, à un corps qu'on empêche peut-être. Et après je me suis aussi rendu compte que moi j'avais envie de raconter une histoire entre une grande sœur et une petite sœur, et ça a pris une grande importance. Et parallèlement au processus d'écriture, j'ai rencontré des petites filles, des femmes, des vieilles femmes, je les ai enregistrées, elles m'ont parlé de leur relation à leur sœur, de leur rapport aussi au corps, à la liberté, au sauvage. Donc c'est un spectacle qui parle aussi de qu'est-ce que c'est qu'avoir une grande sœur ou une petite sœur.
Je note, tu as parlé de sombre et lumière, peut-être l'origine du nom, ça aussi, les étoiles qui brillent dans la nuit, finalement, la grande ours, c'est aussi ça, peut-être. Caroline, je vois que le temps passe très vite, finalement. Moi, j'étais happé par tes propos. On va laisser Amélie, dans quelques instants, nous donner les infos pratiques pour aller voir ce spectacle, du coup, le 22 janvier au THV. Et puis, on va surtout te laisser vaquer à tes occupations. Caroline, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, quand même, avant qu'on se quitte?
Non, merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, rendez-vous le 22.
Eh ben, merci à toi. Et puis, merde pour le spectacle, au moins pour le 22. Puis, tous les autres qui viendront avant et puis après.
Je prends, merci beaucoup.
À bientôt, merci beaucoup. On continue dans Topette ce soir. On va faire un petit détour par une pause musicale. On écoute de Kerkstraat et on revient juste après.
Misschien is het vergeten en dacht je ik probeer het gewoon of wat? Wat doe jij nou? Je kan me op je knieën smeken. Dit had ik van jou zelfs niet verwacht. Dus hoe vaak moet ik nog zeggen? Je valt niets te redden, nee. Hoe moet ik het nou echt gaan uitleggen? Je brak me.
Je brak mijn hart in de kerk. gestern. Ja, was du von mein, meine Küste.
De Kerkstra de Anna May sur le 101.5 FM de Radio G.
Topette avec Pierre Benoît.
Perturbateur dans l'assistance qui se dénomme Charles. Mais Charles, on va pouvoir te laisser le micro tout à l'heure.
Ok.
Voilà, dans quelques instants pour l'édito impro. Tu connais, toi, les Blackfoot ou pas, la tribu dont on parlait tout à l'heure?
Oui, les Blackfoot, c'est une population nomade du Canada central, mais c'est plus. Les Blackfoot, c'est plus. C'est un peu comme. Les frontières en Afrique, si tu veux. Les frontières en Afrique, ça a été déterminé par les Européens, mais tu vas retrouver plusieurs familles, différentes tribus, etc. Au Canada, c'est à peu près la même chose. À ma connaissance, les Blackfoot, c'est une confédération de différentes tribus.
On l'oublie trop souvent, mais Charles, il a d'abord un master, il est prof d'histoire, en fait, initialement. Voilà, donc il est cultivé.
Au Canada, on n'a pas beaucoup d'histoire, donc le peu qu'on...
C'est beaucoup plus court. Ça commence en 1615, et puis...
1534,
pardon, j'étais un petit peu à côté. Bon bref, on s'est beaucoup égaré, on va revenir à Saint-Barthélemy d'Anjou, on va retraverser l'océan Atlantique pour aller du côté du THG. Rebonsoir Amélie, ça va?
Ça va bien.
Ouais, alors chargée de communication du THG, t'es pas venue seule ce soir, on peut dire bonsoir à la personne qui t'accompagne. Bonsoir à la personne qui accompagne Amélie.
Bonsoir.
Tu t'appelles?
Mohamed.
Mohamed, eh ben enchanté Mohamed, t'es en stage d'observation, j'ai cru comprendre juste avant.
Ouais, c'est ça.
Bon, bonne observation, du coup, tu vas nous dire si t'as passé un bon moment tout à l'heure. Amélie, est-ce que tu pourrais réagir au propos de Caroline, peut-être, du spectacle Ursa Major qu'on a entendu juste avant?
Eh ben, quoi te dire, Pierre-Benoît, moi je découvre comme vous, hein, je suis un peu, c'est la grande découverte, puisque c'est une créa que le THV a soutient depuis le départ, en fait, avec la compagnie Loba d'Annabelle Sergent, parce que le THV est, je rappelle, les scènes conventionnées Art Enfance Jeunesse, donc c'est une création qui est pas forcément destinée au jeune public, mais quand même à partir de 12 ans, ça fait partie des axes d'émission, en tout cas du théâtre, de soutenir ces créations jeune public.
Et d'ailleurs, tu parles de jeune public, ça me fait penser qu'on va parler aussi des infiltrés, hein, qui ont programmé un spectacle. On va rappeler dans quelques moments ce que c'est. Mais avant tout ça, non, c'est maintenant. C'est maintenant. Fiesta, je pensais que c'est beaucoup plus tard dans le déroulé, mais non, le 7 janvier. Alors déjà, juste pour les infos pratiques, le 7 janvier, on va prendre l'ordre chronologique. Ouais. Fiesta, programmé par les infiltrés du THG. On va parler du spectacle. D'un tout petit mot, Amélie, les infiltrés, qui sont-ils?
Qui sont-ils? Alors, ils sont déjà venus dans les studios.
Ils s'infiltrent partout.
Ils s'infiltrent partout, puisque c'est un groupe de 6 enfants qui sont âgés entre 9 et 11 ans et qui, en fait, accompagnent l'équipe du théâtre durant toute une année. Et ils démarrent en fait leur expérience culturelle en partant 3 jours à Avignon avec notre directeur qui est Gurval Reto et puis Maude qui est médiatrice culturelle. Charles, arrête.
Je vous ai dit, il y a un perturbateur dans l'assemblée. Les infiltrés, tu connais, tu as compris le principe.
Oui, on les avait reçus la saison dernière, il me semble, fin de saison dernière.
Quand tu étais en service civique avec moi.
Et ils vont revenir normalement là cette année pour effectivement présenter. En fait, ils organisent une visite à un moment donné du théâtre qu'ils mènent également. Donc, ils vont venir vous la présenter.
Voilà.
Aux auditeurs.
En tout cas, ils ont choisi le spectacle Fiesta pour être programmé le 7 janvier au THV. Est-ce que tu as des éléments pour nous donner à voir, à comprendre quel est ce spectacle?
Quel est ce spectacle? Alors Fiesta, en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va avoir 10 ans. Et pour lui, en fait, il a toujours rêvé de... Il s'est toujours dit, moi, quand j'aurai 10 ans, je veux que ce soit la grosse bamboche. Voilà, donc il voudrait faire une grosse fête. Malheureusement, il y a une tempête qui vient... contrecarrer ses plans et qui oblige en fait tout le monde à rester chez soi. Et sauf que lui, il avait pas trop prévu ça, donc il se dit faut faire quoi, on annule ou alors je vais outre tout ça, l'interdiction de se voir donc c'est ce qu'il va essayer d'organiser en tout cas et avec ses amis, sa bande d'amis qui font partie du même immeuble l'idée c'est vraiment de réussir à faire cette fête. Et puis donc c'est les Tréteaux de France qui font cette mise en scène là. C'est une pièce qui sera à destination des enfants à partir de 7 ans. Et pour la petite particularité, c'est qu'en fait cette pièce a été également mise en scène également par une autre compagnie de théâtre qu'on accueille. Alors c'est vraiment un pur hasard. C'est pas ça n'a pas été décidé comme ça. C'est qu'on accueille également le 1er avril prochain, qui est par la compagnie le Théâtre des Trois Clous. Voilà. Et donc
qui fait le même spectacle.
Qui fait en fait vraiment qui adapte cette même pièce qui est de Gwendoline Soublin. Et alors Théâtre des Tréteaux de France, ce sera vraiment pièce de théâtre. Et Théâtre des Trois Clous, et ce sera un théâtre d'objets. Voilà. Donc c'est vraiment deux mises en scène différentes, mais avec la même histoire, bien évidemment. Donc l'idée, eh ben, c'est de venir voir les deux. Et on s'est dit, ben, puisqu'on a quand même les deux pièces qui sont là cette année, eh ben, on a décidé d'organiser une rencontre avec le metteur en scène des Tréteaux de France et l'assistante à la mise en scène du Théâtre des Trois Clous, le 4 avril, pour justement échanger sur ces deux mises en scène et voilà, pourquoi ils ont fait ce choix-là, cette pièce-là, et ainsi de suite.
Une personne dont je n'ai plus le nom dans le monde musical avait dit que finalement la pop musique n'avait toujours le même thème, racontait toujours la même chose, mais on pouvait la raconter de mille façons différentes. C'est pour ça qu'on avait toujours de la pop musique qui existait. Là, c'est un petit peu pareil. D'ailleurs, Charles, c'est une super idée, ça, d'avoir un même spectacle, enfin une même écriture, un même récit, mais proposé avec deux visions différentes, de manières différentes, c'est en termes de spectacle vivant.
Oui, oui. Ce qui est plutôt chouette aussi, c'est que ce que t'expliquais, le pitch, il s'explique sur un post-it. Hein. C'est, voilà. Et c'était justement Spielberg qui disait ça. Hein. C'est si ton pitch il s'écrit sur un post-it, c'est que ton histoire est bonne, quoi. Et justement, à partir de ce noyau-là, tu peux le décliner de différentes manières. Tu joues avec la lumière, la musique, etc., etc. Puis tu peux même en faire une comédie, comme tu peux en faire un drame. C'est tout peut se raconter. Et puis justement, pour revenir sur ce que t'as. Pour citer un autre artiste musical, c'est le chanteur des Foo Fighters qui disait l'avantage des concerts, c'est que tu chantes une chanson, mais t'as des milliers de personnes qui l'entendent différemment parce que ça leur parle différemment, quoi. Donc, c'est dès que tu pars avec un noyau simple, tu peux raconter un peu ce que tu veux, quoi.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Voilà. Et les mots pour le dire viennent naturellement. C'est un, voilà, ça c'est.
Ah, on est fort en citation, là.
C'est Nicolas Boileau.
Ok, voilà. Moi c'est chanteur des Foo Fighters, chacun ses rêves.
Exactement. Bon, encore une fois, on s'égare décidément avec Charles, on ne sait jamais trop où est-ce qu'on va, mais voilà, on a les deux dates. Donc il y aura le 7 janvier pour Fiesta, le spectacle proposé par Tréteaux de France qui a été choisi par les infiltrés Amélie, et le Théâtre des Trois Clous qui viendra le 1er avril avec une forme plus théâtrale, parce que la première version c'est en marionnette, c'est ça, spectacle,
non.
Objet.
Ça c'est la deuxième.
Ah, c'est la deuxième.
Ouais.
Bon, c'est deux propositions différentes dans tous les cas. On se laisse de côté pour l'instant Tram. Ouais, c'est ce qui va arriver dans quelques jours, dans
là,
deux jours.
Jeudi.
Voilà, donc on va laisser un petit peu de suspense. On fait un petit détour par, je sais pas si on va faire du skateboard, en tout cas, il y a Junior qui est là pour sa story bimensuelle dans Topette.
J'espère que vous allez bien, c'est Junior et ici je te documente la vie d'une surfeuse qui a un an pour devenir créatrice de contenu. Je vais pas vous cacher que en ce moment c'est un peu dur. Je suis en plein flux tendu et je suis tombée malade, mais je peux pas m'arrêter pour autant. En ce beau mois de décembre, j'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent spécial skater sur Instagram où je sors une session par jour jusqu'à Noël. J'ai commencé le skate il n'y a pas longtemps et aujourd'hui j'aimerais vous parler de ce que ça m'a apporté. La motivation de sortir, c'est une évidence, mais avant de faire du skate, je passais mes journées devant mon ordi sans vraiment sortir de chez moi. Ça n'a pas été facile de faire mes premiers pas au skatepark et de sortir de ma zone de confort, mais aujourd'hui, j'y vais plusieurs fois par semaine et je me régale. Ce qui arrive quand tu vas plusieurs fois au même endroit, c'est que tu croises tout le temps les mêmes personnes. Au fur et à mesure, tu sociabilises et tes sessions ne sont plus aussi solitaires qu'avant. Ça aussi, c'est une vraie source de motivation. L'autre jour, il s'est mis à pleuvoir et ils m'ont invité à les suivre pour aller skater dans un parking. Si vous savez pas, pleuvoir sous la pluie quand tu skates, c'est vraiment pas bon pour ta planche, tes roulements, et puis c'est la meilleure façon de tomber malade.
C'était super bruyant le parking, on s'est même fait dégager au bout d'une heure, mais c'était super chouette de découvrir un autre moyen de faire du skate quand il pleut. Ensuite, il y a les parcs. Sur Angers, il y en a plusieurs et j'ai commencé à les explorer. Celui où je vais tout le temps, c'est celui de Saint-Serge, à côté de la patinoire. Il est vraiment sympa, avec un côté parc et un autre côté avec un bol. Le bol est vraiment engagé, je me suis déjà pris une belle tôle dedans. J'ai fait l'erreur, je le recommande pas aux débutants. Si à un moment tu as envie de changer, tu peux toujours prendre la A et aller jusqu'à Aquavita. Tu trouveras un giga pump track tout neuf. Un pump track, c'est un circuit composé de bosses, de virages et de sauts. Il y a une piste débutante et une piste expert. Perso, je suis bloquée dans la débutante depuis deux sessions. J'ai encore du chemin à parcourir. J'ai du mal à prendre les bonnes trajectoires pour ne pas perdre de vitesse. Le dernier parc que j'ai fait, c'est celui d'Avrier. Mais j'ai été un peu déçue. Il y a aussi deux pistes de pump track à côté du parc Street, plus grand que celui de Saint-Serge. Le pump track était recouvert de feuilles, donc il était impraticable. Malheureusement, ce que j'ai pas trop apprécié, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de petits. J'ai rien contre eux, au contraire, mais ils ne font pas toujours attention où ils vont. Et quand c'est les parents ou les grands-parents qui viennent t'embrouiller, l'ambiance est pas toujours super bonne. Je prends pas cette expérience pour acquise, parce qu'on était mercredi après-midi et que c'est sûrement partout pareil. Alors j'ai décidé d'y retourner cette semaine pour pouvoir me faire un autre avis. Je vous tiendrai au courant. On parle, mais c'est la dernière fois qu'on discute avant 2026. Hein. Tout le monde dit que 2025 doit se terminer parce que c'est l'année 9 et que 2026 est l'année 1, le début d'un nouveau cycle. Je sais pas d'où ça sort, mais c'est vrai que j'ai hâte de voir ce que 2026 nous réserve. 2025 a été une année remplie de rebondissements. Je suis partie faire un M1 dans une école de cinéma à Paris. Mes études ne me plaisaient pas. Paris était pour moi un enfer, je ne supportais pas le métro et l'ambiance de la ville, je tombais malade toutes les deux semaines, bref, un beau cocktail qui m'a mis à la porte un mois avant la fin de ma première année. Tout ça parce que j'avais perdu mes piliers. Tes piliers, ce sont des choses ou des personnes qui t'apportent ton équilibre et qui te font sentir bien. Ils fonctionnent les uns avec les autres et participent à ton bien-être. Avant de partir à Paris, j'en avais pas conscience et c'est pour ça que tout s'est effondré. Mes piliers sont la santé, évidemment, le surf, mon copain, ma famille et la création. En étant à Paris, vous pouvez direct éliminer le surf. J'étais loin de tout le monde et les allers-retours étaient compliqués. Le master ne répondait pas du tout à mes attentes et je ne me sentais pas du tout libre. Tout ce mal-être et cette fragilité ont fait que je suis tombée malade pendant plus de deux mois et je n'arrivais pas à m'en sortir. La seule solution a été de partir et je suis bien contente d'avoir pris cette décision. Quand on y réfléchit avec du recul, c'est certain que ça allait foirer. Mais j'y suis quand même allée parce que j'avais pas conscience de ce qui faisait partie de mon équilibre. Aujourd'hui, quand j'ai une décision importante à prendre, je me demande toujours si c'est en adéquation avec mes piliers. Ça m'évitera à l'avenir de me retrouver dans des situations similaires à ma vie parisienne. Je t'invite, pour cette fin 2025, à te poser cette question et à faire le point avec toi-même. Qu'est-ce qui te définit le plus ? De quoi as-tu besoin pour être heureux ou heureuse ? Je te souhaite le meilleur pour cette fin d'année et aussi pour la suivante. On se retrouve après les fêtes sur les ondes de Topette. Sur Instagram, par contre, c'est tous les jours jusqu'à Noël. Hein, sur junior.vlog, pour le calendrier de l'Avent spécial skater. Et sur YouTube, c'est tous les lundis à 19h. Profite bien des fêtes et de tes proches. Prends soin de toi aussi, de ta tête et de ton corps. C'est super important. Je te fais des bisous. Tchuss!
Merci Junior pour cette chronique un peu BTP. On était dans le bâtiment avec les piliers. C'est voilà.
Oui.
Je sais pas si le comparatif est bon. Non, mais en tout cas, on peut te retrouver. On peut retrouver déjà sur l'onglet Podcast Plus, me semble-t-il. Sur
et
cet
oui,
Instagram.
Je le mets à jour toutes les deux semaines, évidemment.
Voilà, j'ai vérifié si c'est une vraie information, mais sinon oui.
Oh, j'ai sur l'impression les... là, mais si je le fais. Hein.
Sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Et puis oui, je comprends mieux pourquoi je vois du skateboard partout quand j'ouvre le compte Insta de Topette, parce que du coup, c'est le calendrier de l'avant
oui,
skateboard.
Tous les jours jusqu'à Noël.
Exactement.
Ouais, ouais.
Et ben bonne fête de fin d'année.
Merci, il faut aussi.
Bonjour à tes piliers, et puis du coup, on se voit en 2026.
Ouais, bonjour là, ça marche. Toi, c'est quoi tes piliers? Yes, allez.
Oui, il faut que je prenne le temps de les mettre sur le...
Comme ça.
Voilà, on fait comme ça, on se revoit en 2026. On passe à l'édito impro de Charles.
L'édito impro de Topette avec Charles.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'édito impro. Aujourd'hui, je vous parle d'une pratique qui entre de plus en plus dans les habitudes de ligue. Je parle du cercle de consentement d'avant-match. Qu'est-ce que ça, le cercle de consentement? C'est un petit temps, juste avant de monter sur scène, où les joueurs et les joueuses partagent aux autres leurs limites de jeu.
physique, psychologique et émotionnel. Tout ça pour s'assurer que tout se passe un bon match. Ça va du « j'ai mal dans le dos, grimpez-moi pas dessus » au « j'ai perdu un proche la semaine dernière, si on parle de mort, ça va être chaud pour moi ». Bref, tout le monde partage ses limites et ses sujets sensibles. Comme ça, tout le monde est sur la même longueur d'onde, on se sent en confiance et on peut aller jouer tranquillement. Et bien sûr, l'arrivée de cette pratique a amené son lot de grognements dans la communauté. Parce que même si les improvisateurs et les improvisatrices on a l'habitude de s'adapter aux changements, il y reste pas moins que c'est des humains. Quand ils sont bousculés par des habitudes qu'ils comprennent pas trop pourquoi, ben ils se braquent. Attention, pas tous, hein. Mais je sais qu'à la simple vue du titre de ma chronique, je sais que j'en ai perdu une gang. On va dire que c'est du ouin-ouin, qu'on est woke. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire, mais ça m'intéresse pas trop. Mais en tout cas, on fait dire qu'on est woke. Qu'à écouter les bobos du cœur de tout le monde, on pourra plus jouer. Juste, reprenons comment on en est arrivé là. Tout ça commence en 2017 avec le mouvement MeToo. Les paroles sont libérées et un ras-le-bol généralisé ouvre les yeux du monde en pointant des pratiques jusqu'alors banalisées. Et cette vague-là va toucher également le monde de l'impro. Des mouvements comme Rudesse au Québec ou Paye ton impro en France ou Safe Play Improv dans la communauté anglophone. Tout ça, ça va naître un peu partout pour dénoncer des pratiques qui étaient jusqu'alors, je dirais pas tolérées. Juste, c'était banalisé. On se rendait pas trop compte de ce que ça pouvait avoir comme répercussion. Parce que l'improvisation, c'est un monde qui est bien particulier. Déjà, c'est un monde où dire non, c'est réprimandé. On dit toujours, et moi en premier, hein, quand je coach, on dit toujours qu'il faut jouer dans le oui, accepter la proposition, parce que sinon ça ralentit l'histoire. Moi, c'est ce qu'on m'a dit depuis que je suis en quatrième. Mais jamais on m'a dit ce que je devais faire si la proposition ne me tentait pas. Si un joueur ou une joueuse en face veut jouer le rapprochement, puis que moi ça me tente pas. Pas nécessairement parce que la personne est en face, ben, elle est moche, elle pue, elle me dégoûte. Juste, qu'est-ce qui arrive si moi j'ai pas envie? S'il y a mes enfants dans la salle et que ça me tente pas qu'ils me voient embrasser quelqu'un d'autre que leur mère. Si l'impro, c'est mon loisir à moi, que j'ai pas envie d'explorer le deep down des émotions de mon personnage, que je veux juste faire le fou sur scène, est-ce que j'ai le droit de mettre cette barrière-là? Ben moi, on m'a appris que non. J'ai pas le droit. Ça freine l'impro. Que si je veux agripper ma partenaire de jeu par les fesses pour montrer que je fais un personnage graveleux, je peux. Ouais, c'est comme ça. On m'a jamais appris à réfléchir au-delà de mon impro, au-delà de mon match, en me disant que la joueuse repartait avec ça chez elle. Le fait que j'y ai agrippé les fesses devant 350 personnes, dont peut-être des membres de sa famille. Il y a aussi les pots de banane qu'on se lance en plein match pour tester nos limites, parce que le public aime ça, nous voir nous dépatouiller. Et refuser ces défis-là, ben ça crée de la déception au public. Quand il y a un joueur ou une joueuse qui s'approche pour t'embrasser sur scène, par exemple, que le public il voit ça venir, puis qu'il trouve ça donc drôle que ça arrive, mais que toi, t'as pas envie. Que t'as l'attente d'une salle entière, et même si c'est juste 20 personnes dans la salle, hein, quand t'as le public qui te regarde, les yeux écarquillés, le rire déjà dans les starting blocks, faut avoir une vraie confiance en soi pour pas y aller. Et là, depuis tout à l'heure, je parle de trucs de tripotage, de bisous, de trucs un peu intenses. Déjà, ça sonne dégueu. Mais je vais donner un autre exemple. J'ai eu le témoignage d'une joueuse qui était, elle, toute petite, physiquement. Elle m'a dit une fois, « Moi, Charles, parce que je suis petite et légère, je suis portée dans les airs au moins une fois par match. Tous les matchs, il y a des joueurs qui, pour faire rire le public, ils me soulèvent dans les airs. » Alors que c'est sûr que ça fonctionne, hein? Le public rigole, lui est encouragé dans sa connerie, persuadé d'être le premier à y avoir pensé. Mais moi, c'est à tous les matchs. Puis ça me fait chier. Ben dans le cercle de consentement, cette joueuse-là va pouvoir dire aux autres de pas faire de portée avec elle. Je vais pouvoir dire que le jeu émotionnel, je suis pas confond avec ça. Et tous vont pouvoir affirmer que ce qu'on appelle la zone maillot, c'est une zone hors-jeu. Et là, j'entends déjà les commentaires. Non, mais moi, comment je fais, moi, dans le feu de l'action du jeu, pour retenir les bobos des uns et les préférences des autres, je vais être bloqué par ma créativité. Notez que, dans cette citation, il y a beaucoup, souvent le mot « je ». Ah, trois petits points, je vous laisse avec ça. J'entends que c'est une vraie inquiétude. Quand on prend conscience que des gestes, des attitudes qui nous questionnaient pas par le passé avaient finalement de réelles répercussions, je comprends qu'il y ait des petites paniques. Je vais vous rassurer tout de suite. En principe, les gens, improvisateurs, improvisatrices du 49 et ailleurs, en principe, si vous jouez bien l'impro, vous le faites déjà. L'impro, oui, c'est de la création instantanée, c'est de l'élan, c'est de l'avance, c'est aller dans. Mais c'est avant tout de l'écoute. L'écoute de la situation, l'écoute de tes partenaires de jeu, de ce qui te renvoie eux pour créer avec eux. Le beau jeu en impro, c'est de créer avec ce que l'autre te donne. Pas essayer de passer en force ton idée pour marquer des points. Oui, il y en a qui font ça. OK, il y en a qui jouent comme ça. Mais encore une fois, si vous jouez bien, vous êtes déjà à l'écoute de l'autre. Le cercle de consentement, c'est pas juste une communication d'informations à traiter puis à retenir. C'est un partage. C'est une mise en confiance. C'est voir concrètement que l'on sera écouté et considéré. Tous sont égaux. Puis il n'y aura pas de joueurs, et là je note joueurs, qui serviront de piédestal pour permettre à d'autres de briller. Donc, dans votre cercle de consentement, vous clarifiez. 1. Votre aisance avec le jeu émotionnel. Bisous, câlin ou autre. Mon conseil, c'est la mise en place du ce qu'on appelle le 80-20. Le joueur qui propose l'acte émotionnel fait 80% du mouvement. Et si l'autre joueur ou joueuse l'accepte, ben il fait les 20% restants. Sinon, ben vous vous débrouillez avec ça. 2. Le jeu violent. Vous clarifiez ça. Est-ce que les claques, poussées, rudesse, etc., y a-t-il des zones du corps où ça vous fait stresser? C'est aussi une opportunité de parler des blessures qu'on a tous, mal dans le dos, mal dans les genoux, etc. Parce que c'est vrai que je commence à traîner dans des milieux où les bobos de corps commencent à se pointer un peu. 3. Si besoin, s'il y a des sujets qui vous font décrocher, ça peut être le deuil, violence conjugale, etc., etc. C'est le moment d'en parler. Et 4. Il y a des ligues qui abordent déjà la question du genre. Annoncer son pronom, par exemple. Mais si ta ligue grince déjà des ans à la mise en place du cercle de consentement, vas-y tranquille sur le changement. Donc, dans tous les cas, on le dira jamais assez, non, vous n'avez pas à vous forcer à dire oui à tout, même pour préserver le show. Et je rappelle simplement aux arbitres, c'est votre rôle, vous êtes garant du show, et que, ben oui, en 2025, bientôt 2026, que vous le vouliez ou non, la sécurité émotionnelle, ça fait partie du show.
Merci beaucoup, Charles, pour cet édito impro qu'on peut appliquer à d'autres domaines de la vie, en plus, bah, au quotidien, hein, quand on fait les gens, quand on est en société, tout simplement, toujours être, voilà, prendre en considération l'autre. Il y a une nuance aussi quand on fait rire les gens, à rire avec les gens ou rire des gens, tu vois,
C'est surtout que en spectacle, ta première unité de mesure, on l'a souvent dit, ici à Topette, c'est que la première unité de mesure, c'est la réaction publique. C'est le rire, c'est le public qui rigole. Si t'as le public qui rigole, tu vas avoir un bon stimulus, tu vas être encouragé dans ta chose. Donc, c'est juste de ramener ton regard un peu sur scène, de voir avec qui tu travailles, et de dire, si ça rigole, c'est peut-être pas nécessairement pour les bonnes choses.
Et ça, on peut le reporter aussi, peut-être aux notions d'harcèlement scolaire,
Complètement, complètement.
Le public, c'est la classe, et puis du coup, on oublie peut-être qu'il y a une personne qui souffre des blagues qu'on fait à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, tu restes avec nous et puis on se revoit non pas dans deux semaines, mais du coup l'année prochaine également.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
On est toujours, c'est un petit peu décousu par rapport à la structure habituelle de l'émission, mais on est toujours avec Amélie Chana du THV, chargée communication du THV. Il nous restait une information, une date à annoncer, celle du 11 décembre, c'est la prochaine, c'est dans deux jours. On a fait un petit peu dans un ordre chronologique aussi déstructuré. Tram qui va jouer, c'est un concert, c'est une visite sensorielle aussi qui est proposée en amont. Et justement, un petit peu dans les thématiques de consentement, d'inclusion aussi, on est sur des questions de société, parce que ça s'adresse aux personnes qui n'ont pas forcément toutes leurs facultés sensorielles.
Tout à fait. En fait, on a... Après, ça fait très 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 longtemps que le THV met en place, œuvre pour que la culture soit accessible à tous. Et on s'est rendu compte que les gens sont pas forcément ont pas forcément l'information et tout ça, donc on a souhaité cette année de la rendre un peu plus visible en créant différents outils et en mettant effectivement des dispositifs en place. Les visites sensorielles en font partie. On invite du coup les personnes qui sont malvoyantes ou aveugles de venir, on va dire, trois quarts d'heure, une heure avant les débuts des concerts. Donc c'est vraiment une proposition qui se fait sur tous les concerts de la saison. Et pour en fait rencontrer l'équipe artistique avant le concert, écouter les instruments pour pouvoir mieux les identifier et voir peut-être au-delà les manipuler, les toucher. Voilà, ça c'est en fonction de l'équipe artistique. On s'avance pas parce qu'on sait pas si c'est possible ou pas, mais voilà. L'idée c'est en tout cas de pouvoir échanger et d'écouter les différents sons.
Et Tram, c'est pas spécialement un concert spécifiquement conçu ou adressé pour des personnes en situation de, par exemple, pour les déficients visuels, malvoyants ou non-voyants.
Non. Là, c'est là, on parle plutôt de spectacles qui sont naturellement accessibles parce que ça reste des quelque chose de sensitif. En fait, on écoute, donc les déficients visuels peuvent très bien entendre. Et au-delà de ça, on a aussi un système d'amplification du son pour les personnes qui seraient équipées de manière, comment on dit, auditive. Voilà. Donc, ce qu'on appelle la boucle magnétique. Ça leur permet, en fait, de positionner leur appareil auditif sur un canal spécifique, une fréquence, et de pouvoir, du coup, amplifier le son qui se passe sur scène.
Oui, parce que techniquement, j'imagine que ça rajoute en complexité des personnes qui ont des difficultés sensorielles ou des handicaps quelconques d'accéder au spectacle. Ça nécessite d'adapter aussi. Donc tout ça, il faut le prendre en considération. Mmh. Et justement, le THV fait déjà ce travail.
C'est ça. Alors nous techniquement, on a des choses vraiment qui sont mises en place sur tous les spectacles, dont cette boucle magnétique. Après, les fauteuils, les places pour les personnes à mobilité réduite. De toute façon, ça, c'est des choses qui sont obligatoires aussi. Et au-delà de ça, les salles de l'Anjou, là, je le précise, parce que on travaille à plusieurs aussi là-dessus. On mutualise les outils. Le Shabada s'est équipé de mallettes d'audio description ou de gilets. C'est les gilets vibrants et OK, je crois aussi.
Charles,
à ma connaissance,
parce que je vois Charles qui me fait des chaises comme ça. Oui, non,
ça,
oui, non.
Je veux faire atterrir un avion. C'est ça, effectivement. Ok, c'est des sortes de comme des vestes de sauvetage, j'ai envie de dire, qui vibrent.
C'est ça pour les personnes malvoyantes et sourdes.
Sourdes, ouais, ça. Malvoyantes, c'est compliqué.
Ouais, c'est ça. Non, c'est ça.
En tout cas, on sait aussi que sur les festivals, c'est des enjeux de plus en plus maintenant d'intégrer toute la question d'accessibilité à l'ensemble des publics. Amélie, parce que du coup, on arrive en fin de parcours, on a pris le temps qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il faut retenir, les informations pratiques pour cette visite, ce concert, les deux spectacles, alors j'ai perdu le nom,
en janvier.
Fiesta, janvier et 1er avril, ouais. Et puis aussi, du coup, le spectacle Oursa Mayor de Caroline Loz. Carte adhérent, on peut adhérer déjà au THV, on peut le faire en cours de route.
On peut le faire tout le temps, toute l'année. Vous pouvez adhérer sans souci. Et puis après, c'est des places qui sont plutôt à des tarifs assez attractifs.
Assez accessibles aussi, là.
Ouais. On essaye en tout cas, on a une politique tarifaire qui est chouette au théâtre. On le peut encore, parce que. Merci grâce à certaines subventions et puis surtout à la ville de Saint-Barth qui nous soutient là-dessus. Mais voilà, les places sont ça va de 7 à 24 euros en plein tarif. Et pour les adhérents, c'est de 10 à 12 euros, avec l'adhésion qui est valable sur toute la saison.
Merci beaucoup Amélie d'être passée dans Topette ce soir. On se voit donc le mois prochain, l'année prochaine avec les Infiltrés. J'ai cru comprendre où ce sera, oui. Peut-être l'émission suivante.
Ce sera encore après, je crois.
Encore après. Ouais. Bon, en tout cas, passe de bonnes fêtes de fin d'année. On espère que le Père Noël passera à Saint-Barthélemy et au THV. On l'espère pour vous, qu'il vous délivre des cadeaux aussi. Merci Mohamed d'avoir observé cette émission. T'as apprécié ?
J'ai apprécié.
Bon, merci pour ton retour. Passe de bonnes fêtes de fin d'année également. Junior, à l'année prochaine. Sidonie, à demain. Charles, à l'année prochaine.
À l'année prochaine,
Et puis, bon, joyeux Noël.
Merci beaucoup.
Nous, on se retrouve demain à partir de 18h10. Topette.
Plus elle te mord et plus tu tiens à elle. Une étincelle qui te pique le corps. Plus tu l'adores. Et plus elle est cruelle, la vie est belle comme un alligator. Das Leben schreit, es eint und rennt und fetzt. Das Leben lacht und singt mit dir im Chor. Das Leben heilt, nachdem es dich verletzt. Das Leben reißt wie ein